Bonjour à tous. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons dans l'émission Rencontre sur Radio Accor, en partenariat avec l'Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voix de Compostelle.
Aujourd'hui, nous recevons Marc. Marc qui va nous parler de son pèlerinage, de cette marche vers la mer et du sens de cette marche. Marc, bonjour.
Bonjour Claude.
Eh bien Marc, en un mot d'abord, qui êtes-vous ?
Eh bien, en un mot, j'étais dans une autre vie prof de lettres. Et puis, arrivé à ma retraite, j'ai entrepris le pèlerinage de Compostelle.
Alors, votre pèlerinage, parlons-en. Quand l'avez-vous fait ? Combien de temps ?
Alors, je suis parti très exactement le 5 septembre 2008 et je suis arrivé à Saint-Jacques de Compostelle le 29 octobre de la même année.
Donc, un périple relativement court, 2 mois à peu près.
2 mois, c'est ça, oui.
Hein, à une période à peu près favorable, septembre-octobre, assez douce.
J'avais le souci de partir à une période où il ne fasse pas trop chaud. Hein. Donc c'était une de mes priorités. Et puis, donc c'est le mois de septembre qui me semblait convenir le mieux. Hein. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai eu très beau temps, mis à part 5 jours de pluie. Mais bon, ça a été assez exceptionnel.
Donc, vous avez pu en bénéficier pleinement. Dites-moi, pourquoi choisir la voie de Compostelle, ce chemin de Compostelle, plutôt qu'un autre chemin de randonnée ?
Je crois que le pèlerinage, puisque pour moi, ça a été un pèlerinage, ça s'inscrit dans toute une histoire, et en particulier dans une histoire personnelle. Et pour être tout à fait clair, puisque j'ai rien à cacher, il s'est trouvé qu'il y a 7 ans de cela, j'ai eu des problèmes de santé assez conséquents, et pour être très précis, des problèmes circulatoires. Au point que mon chirurgien m'avait dit, parce que j'étais à l'époque un grand fumeur encore, m'avait dit, vous pouvez continuer à fumer, mais dans 10 ans, non seulement vous ne marcherez plus, mais vous serez mort.
En effet, ce n'est pas tellement un choix.
Oui, voilà. Donc, à la suite de quoi, quand même, il s'est employé à m'arranger ça. Ça s'est soldé par un double pontage aorto-bifémoral. Parce qu'à l'époque, je faisais 100 mètres, j'étais obligé de m'arrêter parce que la jambe se mettait en tétanie.
Donc vous avez choisi de partir pour un grand voyage.
Et voilà, donc il m'a réparé ça et à l'hôpital, c'est là qu'est venue cette idée. À l'hôpital est venue cette idée que si je retrouvais l'usage de mes jambes, je partirais à Compostelle. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire le pèlerinage. Donc le pèlerinage a été en quelque sorte pour moi, au point de départ, une espèce de chemin d'action de grâce pour remercier d'avoir retrouvé l'usage de mes jambes et le plaisir de marcher.
Donc, votre départ s'est passé donc de Rouillé, je crois, c'est ça ? Un matin de bonne heure ?
Je suis parti de Rouillé le matin à 7h30, après la messe et la bénédiction du pèlerin.
Accompagné par des amis, vos parents ?
Alors, accompagné par ma famille, bien sûr, par mon épouse, par mon fils, par des amis de la paroisse, et puis aussi par quelques représentants de l'Association des Amis de Saint-Jacques en Vienne, qui étaient venus m'accompagner sur les 5 premiers kilomètres.
C'est vrai que c'est très important de se sentir soutenu quand on part vers une pareille aventure, parce que y a cette aventure que vous allez vivre, hein, Il y a la coupure avec votre famille, c'est bien ça, la coupure avec tout. Mais peut-être trouvez-vous d'autres choses en route, puisque vous êtes coupé de tout.
Oui, de toute façon, je crois que partir en pèlerinage, c'est prendre le risque d'une rupture. Hein. C'est lâcher prise, c'est quitter tout le périmètre connu pour partir d'une certaine manière à l'aventure, pour prendre le risque de devenir un étranger, puisque c'est le sens étymologique du mot pèlerin. Hein. Le pèlerin, c'est celui qui devient un étranger et qui part en quête d'eux. Hein, puisque aller en pèlerinage, c'est partir en quête d'eux.
Oui, à la recherche de quelque chose, comme vous dites, hein, mais également en remerciement de ce qui vous est arrivé, ou j'allais dire, bien confirmer que ce qui nous est arrivé hein, est bien réel. L'usage des jambes dont vous parliez tout à l'heure, vous avez pu le contrôler pendant 2 mois que cet usage était bien revenu.
Ah ben oui, hein. Oui. Mais donc ça a été, c'est vrai, ça a été un remerciement, une action de grâce. Mais en même temps, je crois que la démarche qui consiste à partir, je crois qu'elle est, elle ne se laisse pas réduire à une formule simple. Hein. Il y a un certain nombre de raisons dont on va dire que ce sont des raisons objectives, des raisons dont on est parfaitement conscient. Et puis je crois qu'il y a d'autres raisons qui sont beaucoup moins claires, qui sont beaucoup plus diffuses ou confuses, hein, et qui correspondent à, j'aime bien cette formule, à ce que Françoise Dolto appelait la recherche de l'inconnu de sa soif, hein, la recherche peut-être de Dieu, enfin de ce quelque chose qui emplirait totalement nos vies, hein, et qui inscrit le pèlerinage dans une démarche de quête, oui, pour moi, religieuse.
Je crois qu'on peut dire que ce n'est peut-être pas la recherche de Dieu en lui-même, mais c'est la recherche d'une approche de Dieu, de toute façon, hein, voilà. À partir du moment où on se considère comme un pèlerin. Ça fait plus de 1000 ans que ça existe, que le pèlerinage existe, et tous les pèlerinages ont ce côté religieux, ce côté recherche dont vous nous parliez. Hein. Et pour vous, la marche, c'était une liberté, c'était retrouver un côté nature, naturel, comment ?
Eh bien, je crois que la marche, ça a de multiples vertus. Et la première vertu de la marche, c'est précisément de nous couper d'un contexte, d'une agitation qui est celle de la vie active, ou même de la vie sociale qui est la nôtre, hein, et de nous installer dans un autre temps, dans un autre rythme, hein, un rythme, parce que la plupart du temps dans la vie active, on est pris dans une espèce de tourbillon, et on vit la plupart du temps dans des parenthèses qui sont du temps accéléré et de l'espace comprimé, hein. C'est le temps de la voiture, le temps du train, le temps de l'avion, le temps de la vitesse.
Et tout à coup, la marche, serrés.
Voilà. Et tout à coup, la marche nous installe dans autre chose, hein, autre chose de totalement différent, un rythme où l'espace, le temps et le corps se retrouvent dans un accord nouveau, inédit, et dans un accord tel qu'il permet le temps de la réflexion, un temps d'intériorité, une disponibilité qu'on n'a pas la plupart du temps dans la vie normale. Et c'est pour ça que ce temps-là, je trouve, est un temps vraiment privilégié.
Mais oui, on retrouve un rythme naturel, et étant en accord avec la nature, on se retrouve intérieurement en accord aussi avec soi-même. Au bout d'un certain temps, bien entendu, de marche, il faut s'habituer à ce rythme naturel, certainement.
Oui, je crois que ça se fait progressivement. Hein. Et c'est bien, comme le dit le proverbe, souvent on dit, on ne fait pas le chemin, c'est le chemin qui vous fait. Hein. Et c'est vrai que progressivement, la marche au long cours, hein, et le pèlerinage installent dans une espèce de temps différent, qui est un temps d'une certaine manière, un temps de grâce.
Un temps de grâce et un temps de richesse également, alors. Richesse nouvelle, découverte.
C'est une découverte dans tous les sens du mot. C'est dans le sens que c'est l'occasion de revenir ou d'aller en profondeur à la rencontre de soi-même, hein, et puis bien entendu, hein, d'aller à la rencontre de l'autre et des autres, puisque le pèlerinage, c'est en permanence des compagnonnages plus ou moins éphémères, mais des compagnonnages où se passent des échanges très spontanés, la plupart du temps très très sincères, très très profonds, très très personnels souvent.
Je pense que l'anonymat aide à cette sincérité.
L'anonymat, je crois, oui. Ce côté éphémère, oui, aide à facilite en tout cas le fait de se confier, hein, aux gens. Et puis, en même temps, je crois que c'est vrai qu'on est dans un rapport très, très, très différent du rapport, on va dire, social normal, où il faut un temps pour s'apprivoiser. Or là, la carte de visite de tous ceux qui marchent, c'est tout simplement la qualité et le fait de marcher. Sur la carte de visite, il n'y a pas besoin d'autres raisons sociales.
Non, la raison sociale, c'est pèlerin. Je vais à Compostelle.
Voilà. On est pèlerin et de ce fait, on se sent proche et on peut se dire des choses.
Oui, oui, je vois très bien, je vois tout à fait bien cette situation. Hein. Le temps qui vous donne cette richesse de la découverte de la nature, mais le temps de penser, vous l'avez dit, le temps de prier aussi.
Oui, parce que je crois que avec la marche, on entre dans une espèce de disponibilité totale et de disponibilité totale, par exemple, à l'environnement. Et très vite, très souvent, moi, sur le chemin, je me suis trouvé dans des moments d'émerveillement. D'émerveillement devant le spectacle, tout simplement, de la nature, devant la grandeur et la beauté de la création. Et donc, très vite, on entre dans des prières, dans ce qui peut devenir une prière de louange ou d'action de grâce, devant la beauté du monde, tout simplement.
Oui, c'est François d'Assise.
C'est très proche, oui, je pense que ce qu'a pu ressentir, toute modestie mise à part.
Hein, je comprends, restons modestes. Hein, hein, voilà. Mais c'est tout à fait ça, de toute façon.
Voilà, oui, oui, c'est le chant de la création vient du fait même qu'on est immergé totalement, hein, totalement dans une nature qui révèle, qui a le temps de révéler, parce qu'il y a ce temps de la marche qui a le temps de révéler toutes ces beautés, toutes les facettes de ces merveilles. Quoi.
Oui, c'est certainement, ça fait partie des particularités du chemin de Compostelle, des voies de Compostelle, parce que le déplacement se faisant à pied, comme vous venez de nous le souligner, de nous le rappeler justement, le déplacement à pied, le temps du déplacement, on se déplace à 3 km à l'heure, et on a tout le temps de penser, de prier pour préparer cette arrivée à Compostelle. Alors qu'à la vitesse des voitures, des avions et des trains aujourd'hui, on embarque à Poitiers. Hein, quelques heures plus tard, on est à Compostelle. Et toute cette préparation dont vous parlez nous échappe.
Oui, parce que j'en ai fait l'expérience cet automne, puisque je suis retourné à Compostelle avec mon épouse. Et bien entendu, j'y suis retourné en voiture. Et on a ce sentiment étrange que tout est exactement à la même place et pourtant rien n'est pareil. Parce que ce qu'on vient gagner au bout de 3, 4, 5, 6, 7 heures de marche, ça a un prix que le fait d'arriver en voiture ne peut pas donner. Le fait d'arriver en voiture, ça met les choses au rang d'une consommation presque touristique qui banalise finalement l'étape. Alors que venir quêter les choses au bout d'un effort long, ça leur donne un prix bien au-delà de ce que sans doute les choses sont dans la réalité. Hein.
Est-ce que vous pensez que les difficultés que vous avez ressenties en marchant, les souffrances que vous avez pu avoir, vous avez eu comme tout le monde mal aux pieds et mal dans le dos, certainement, peut-être le froid, est-ce que vous pensez que toutes ces difficultés rajoutent à la capacité du pèlerinage ?
Je dois dire, bon, c'est vrai que on a toujours un peu mal quelque part. Il y a des quelques moments privilégiés où tout paraît être dans un bien-être absolument total, mais ce sont vraiment quelques instants tout à fait exceptionnels. Mais c'est vrai qu'il y a des petites douleurs un peu à gauche à droite, mais je ne mets pas de vertu particulière dans la souffrance ou la douleur. Et moi, j'ai eu l'impression que d'être sur le chemin, il y a une espèce de magie qui est la suivante, c'est qu'on se sent presque aspiré. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout, j'ai pas du tout eu ce sentiment de devoir faire un effort surhumain, héroïque pour aller au bout du chemin. Mais au contraire, chaque jour, l'étape se faisait avec bon, plus ou moins de petits bobos, mais ce n'est pas ce qu'on retient au bout.
Oui, finalement, la souffrance n'enrichit pas.
Ben, en tout cas, ça n'a pas été. J'ai pas perçu les choses comme ça.
Hein. Oui, je vous comprends parfaitement, en effet. Eh bien, chers amis, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Rencontre. Nous sommes toujours sur Radio Accor. Hein, et aujourd'hui, nous profitons du témoignage de Marc, Marc Pèlerin de Compostelle, hein, qui nous donne et qui nous fait part du sens de son pèlerinage. Marc, continuons. En continuant, je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet beaucoup plus religieux, beaucoup plus profond, hein, la croyance. Est-ce que le pèlerinage peut apporter la croyance en Dieu, j'entends bien. Est-ce que le pèlerinage renforce ou est-ce que le pèlerinage peut finalement être quelque chose de tout à fait anonyme? Les trois me répondrez-vous, mais dans votre cas.
Ben dans mon cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, dans mon cas, je suis parti vraiment en tant que pèlerin. Donc je suis parti après une bénédiction que m'a donnée le prêtre de ma paroisse. J'étais parti avec un bourdon que je m'étais appliqué à préparer plusieurs mois avant. Et sur ce bourdon, j'avais gravé une formule un peu librement adaptée d'une épître de saint Paul. Hein. J'avais gravé ceci, pour bâton le Seigneur, pour ceinture la vérité, pour chaussure la foi. Et donc, ça situait un peu ma démarche dans la quête qui était la mienne, qui était une quête de vérité, un approfondissement aussi de ma foi, hein, une recherche, un chemin vers un approfondissement, oui, de ma foi.
Hein. Et cette manifestation tout au long du chemin, tout au long du pèlerinage, hein, elle se traduit matériellement. Ça se traduit matériellement par le don de soi, la disponibilité, l'écoute des autres.
Ben je crois qu'il y a ça, et c'est l'occasion de raconter une très très belle anecdote dont j'ai été simplement le témoin, mais qui m'a beaucoup marqué. J'étais parti avec les petits fascicules de Prions en Église qui donnent les textes de l'office du jour, hein, pour tous les jours du mois. Donc j'étais parti avec mes deux petits fascicules. Et je lisais tous les soirs les textes du lendemain, ou parfois les textes du jour, enfin selon la situation. Et je me rappelle, c'était à Santo Domingo de la Calzada. Je venais de lire, après avoir pris ma douche, enfin au bout de l'étape, après m'être reposé un peu, je venais de lire la parabole du bon samaritain. Et puis... Après un petit temps de repos, donc je m'apprêtais à descendre en ville, visiter un peu comme on le fait, hein, après l'étape. Et en descendant, j'ai croisé Claude. Et Claude, c'était un homme de 70 ans qui souffrait à ce moment-là d'ampoules assez sévères. Et il cherchait, il se renseignait auprès de l'hospitalier pour savoir où il pourrait se faire soigner. Et à la réception, il y a un Espagnol qui parlait un peu le français, qui lui dit « Mais c'est quoi ton problème ?» Bah, il dit j'ai des ampoules, j'ai mal aux pieds. Il dit « Montre-moi ça. » Et là, dans la réception, dans le local de réception, Claude s'est déchaussé et puis Manuel, l'Espagnol, s'est mis à le soigner. Et j'ai eu tout à coup l'impression que la parabole du bon samaritain prenait corps. Ça se jouait là. Et ça me paraît assez symptomatique de ce qui se passe sur le chemin. Il y a une espèce d'attention à l'autre, ou en tout cas une interrogation que personne ne peut esquiver et qui est « Est-ce que tu as du temps à perdre pour les autres ?» Et là, c'en était l'illustration la plus belle et la plus parfaite.
Tout à fait. La disponibilité, le don de soi, le don du temps, puisque c'est ce qu'on donne, comme vous l'avez si bien dit. Et je pense que, donc, après ce que vous avez dit là, concernant les écritures, on peut en effet se rapprocher, quand on fait ce pèlerinage, d'un certain nombre de textes de l'Évangile, puisque finalement le Christ et ses apôtres allaient à pied à travers la Judée. Eux, ils annonçaient au lieu de chercher. Et vous, pèlerins, vous marchez pour trouver à pied aussi à travers l'Espagne du Nord.
Eh bien, je crois que jamais ça ne m'avait frappé à ce point que dans les Écritures, l'image de la marche et du chemin est omniprésente. Il est question tout le temps de marche et du chemin, au sens symbolique, bien sûr. Mais le fait même de marcher rend particulièrement sensible à cette symbolique-là. Et bien entendu, à toutes les interpellations de l'Écriture, au point que parfois on se dit que les textes ont été écrits pour soi. Et je me souviens d'un soir où le texte du jour, l'évangile du jour, c'était le Christ qui envoyait ses apôtres en mission et qui leur disait « Ne prenez ni bâton, ni manteau, ni argent. » Et moi, je me retrouvais avec mon sac de 13 kilos sur le dos et je me disais, mais bon sang, qu'est-ce que je suis encombré encore? Qu'est-ce que j'ai comme peur que je porte sur moi? Et donc, en permanence, évidemment, on est renvoyé à soi et on s'interroge sur, sur soi aussi et sur le chemin qui reste à faire, au sens symbolique du mot, bien sûr.
Je pense que c'est certainement une école d'apprentissage de soi-même, une école d'apprentissage de Dieu, de l'Écriture, des Évangiles, et non pas une remise en cause de sa foi, mais un approfondissement de sa foi, de sa recherche. Et l'aboutissement, puisqu'on parle d'aboutissement, l'aboutissement, c'est Santiago.
Bien sûr. Santiago, c'est un rêve qu'on mûrit pendant 2 mois. C'est un rêve qu'on porte pendant 2 mois. Et quelque part, au moment où on arrive, il y a presque une espèce d'effet de déception. C'est-à-dire que c'est vrai que la réalité ne peut jamais être à la hauteur de ce temps d'approche et de ce rêve qu'on a patiemment mûri. Et puis, c'est vrai parce que tout à coup, après ce temps de solitude quand même, ce temps de disponibilité totale à la nature, on se retrouve plongé dans le tourbillon des touristes. Je me rappelle de cette cathédrale qui grouillait de monde, où on entendait les guides qui parlaient dans toutes les langues, où tout à coup, une espèce de sentiment presque de frustration. Et puis vient le temps où effectivement, on entre dans le recueillement et dans la prière, et on comprend que peut-être Saint-Jacques, le plus important, ce n'est pas d'arriver. Saint-Jacques, ce n'est peut-être pas un aboutissement. C'est peut-être une porte pour un nouveau départ. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est pas un but qui marquerait une fin. C'est juste une étape qui marque le départ vers autre chose. Et c'est peut-être ça, la grâce du chemin.
Eh bien, Marc, ce témoignage poignant, ce témoignage plein de sens religieux, ce témoignage que nous avons apprécié, nous vous en remercions. Nous vous remercions de nous avoir fait partager votre quête. Et la semaine prochaine, nous retrouverons un nouveau témoin qui nous parlera à nouveau aussi de ce chemin mythique et merveilleux sur lequel nous pouvons marcher.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins,